Bienvenue dans Le Débat. Aujourd'hui, on se penche sur une date charnière. Le 27 juin 1976, le Portugal bascule.
Oui, à peine 26 mois après la Révolution des œillets.
Exactement. Et le pays élit le général António Ramalho Eanes à la présidence avec plus de 61% des voix dès le premier tour.
Un score massif.
Vraiment massif. Et notre désaccord aujourd'hui, c'est de savoir comment interpréter ce tournant. Je suis convaincue que ce scrutin marque le triomphe définitif de l'ordre constitutionnel civil. C'est un vote qui, en fait, unifie le pays vers une démocratie parlementaire.
Et de mon côté, je suis certain que c'est surtout une stabilisation militaire déguisée. Quand on regarde le poids institutionnel de l'armée et les fractures socio-économiques béantes, cette transition civile me paraît encore largement illusoire.
Bon, pour comprendre ce qui se joue, il faut regarder la coalition complètement inédite derrière Anès.
Ah oui, l'alliance improbable.
C'est ça. On a le Parti socialiste de Mario Suárez, le PPD au centre droit et le CDS. Des partis qui, normalement, s'opposent sur tout.
Mmh.
Mais ils s'unissent, pourquoi ? Pour clore la séquence révolutionnaire. En choisissant Anès, les Portugais ne veulent pas un retour à l'autoritarisme. Ils choisissent l'homme du 25 novembre 1975, celui qui a bloqué le coup de force de l'extrême gauche, quoi.
Je vous arrête sur le mot civique que vous utilisez en filigrane. Ce n'est pas parce qu'on glisse un bulletin dans l'urne que le pouvoir devienne purement civil du jour au lendemain.
Mais c'est un pas immense.
Un grand pas, oui. Mais Yanès reste un officier de carrière. Et surtout, regardons le mécanisme de la nouvelle constitution. Elle maintient formellement la tutelle de Conseil de la Révolution.
Oui, mais c'est transitoire.
Peut-être, mais ce n'est pas juste honorifique à ce moment-là. C'est un organe de militaire non élu qui a un droit de veto sur l'action politique. Et puis, n'oublions pas Otelo Sareva de Carvalho.
Qui fait 16%, oui.
Voilà, 16% c'est énorme. Il incarne l'extrême-gauche militaire et ça prouve que le courant révolutionnaire est très vivace, surtout dans les quartiers ouvriers.
Je vous l'accorde, le score de Tello montre une ferveur résiduelle. Mais regardez comment Anès a conçu son mandat pendant la campagne. Il n'a pratiquement pas ouvert la bouche.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Ben oui, il a fait des petits déplacements très discrets. Il a laissé les chefs des partis civils s'épuiser sur les estrades à sa place. S'il voulait vraiment une prise de pouvoir militaire, il aurait, je sais pas, imposé son discours. Ce silence volontaire, pour moi, c'est justement la preuve mécanique de sa soumission aux institutions naissantes.
Alors là, je ne partage pas du tout cette lecture. Si le PS, le PPD et le CDS se rangent derrière lui, ce n'est pas pour son mutisme.
Vous pensez que c'est quoi, alors ?
C'est le souvenir très frais de son intervention militaire de l'automne précédent. En fait, c'est l'uniforme qui rassure l'électorat modéré face à la peur du chaos, pas le politicien ANS.
L'uniforme rassure, oui, parce que les urnes ont été d'une clarté absolue quant au rejet de ce chaos. Octavio Pato, le candidat communiste, s'effondre à 7%.
Oui, c'est un revers cuisant.
Et l'amiral Pinheiro d'Azevedo, qui était pourtant le chef du gouvernement de transition, fait à peine 14%. Les électeurs ont clairement dit « on veut un retour à l'ordre constitutionnel, pas une perpétuation du tumulte ».
Un retour à l'ordre, certes. Mais imaginez qu'on essaye de reconstruire un édifice sur des fondations totalement sismiques.
Sismiques.
Complètement. Le pays sort de 2 années de bouleversements colossaux. L'économie est ravagée par l'hyperinflation. La production est désorganisée par les nationalisations, les occupations de terres dans la Lentejo.
C'est vrai que la situation économique était au bord du gouffre.
Exactement. Et ajoutez à cela la décolonisation. Il faut absorber et loger en urgence des centaines de milliers de retornados, ces rapatriés qui fuient les anciennes colonies. Comment consolider une démocratie face à une telle poudrière sociale, alors que l'échafaudage qui empêche la maison de s'effondrer, ben, ça reste l'armée.
Mais c'est exactement là que réside l'exploit inouï de 1976. Gérer cette poudrière sans sombrer dans la guerre civile. 26 mois seulement après la fin d'une longue dictature, le Portugal réussit l'impensable.
C'est-à-dire ?
Élire un président au suffrage universel direct qui, dès le lendemain, s'apprête à nommer Mario Suárez pour qu'un gouvernement civil affronte ses crises de front.
Oui, oui, ce président devra constamment faire le grand écart. Le défi de la période qui s'ouvre, ce sera de concilier cette légitimité démocratique évidente avec le poids de ces généraux qui surveillent chaque loi. Le calme dans les rues de Lisbonne au soir du 27 juin, ce n'était pas l'euphorie de 1974.
Non, bien sûr, l'atmosphère avait changé.
C'était le constat lucide d'une société épuisée qui s'accroche à cet échafaudage militaire dont nous parlions.
En tout cas, le passage de la révolution à la normalité des urnes est acté. Reste effectivement à voir comment les murs tiendront une fois l'échafaudage militaire retiré.
Absolument. Tout l'enjeu des années à venir sera de prouver que ce cadre civil peut survivre par lui-même.
Et c'est une question que l'histoire du Portugal continuera de trancher. Merci de nous avoir rejoints pour cette analyse.